Bonjour. Fils d'enseignant républicain et admirateur de Jean Jaurès, petit-fils de modestes paysans du Cantal, Georges Pompidou est né le 5 juillet 1911 à Montboudif. Jeune, il militera à la SFIO comme son père. Admis en Hippocagne à Toulouse, à la fin de sa scolarité à Albi, il terminera sa préparation au concours au lycée Louis-le-Grand. Il y découvre la société et la vie culturelle parisienne et noue de profondes amitiés, notamment avec Léopold Sédar Senghor. Proche de la gauche, il rejoint les étudiants socialistes, mais renonce rapidement à tout embrigadement. Il rallie cependant les rangs de la Ligue d'Action Universitaire Républicaine et Socialiste, organisation antifasciste créée par Pierre Mendès-France, et fait le coup de poing contre les camelots du roi. Échouant de peu à l'oral de l'École Normale Supérieure en 1931, il y est reçu l'année suivante au 8e rang du concours. Premier à l'agrégation des lettres, diplômé de l'École Libre des Sciences Politiques en 1934, il accomplit son service militaire à Clermont-Ferrand en qualité d'officier de réserve. Peu de temps avant son affectation, Georges croise le regard d'une jeune fille blonde, étudiante en droit au cinéma Saint-Michel. C'est le coup de foudre. Il l'épousera le 29 octobre 1935 dans la chapelle de l'Hospice Saint-Joseph. Le couple s'installera à Marseille, où Georges enseignera pendant 3 ans au lycée Saint-Charles. Sans enfants, ils adoptent un garçon, Alain, né en 1942. Pompidou est mobilisé en 1940 au 141e régiment d'infanterie alpine. Il ira successivement en Allemagne, en Alsace, en Bretagne et enfin dans la Somme. Partout, il se fait remarquer pour son calme dans les moments dangereux. Il est décoré de la Croix de guerre. En juin 1940, au moment de la demande d'armistice, son régiment se trouve à Nexon, en Haute-Vienne, près de Limoges. Il y sera rejoint par sa femme. Gaulliste de sentiment, il n'aura cependant que des contacts épisodiques avec la résistance. À la Libération, Pompidou reprend ses cours au lycée Henri IV. Il enseigne en Hippocagne et en classe préparatoire à l'École nationale de la France d'Outre-mer. Il obtient, par le biais d'amis gaullistes, un poste de chargé de mission pour l'éducation nationale au cabinet du général de Gaulle, président du gouvernement provisoire de la République française, et devient maître des requêtes au Conseil d'État. Il rejoindra plus tard la banque Rothschild et occupera rapidement des fonctions de directeur général et d'administrateur dans de nombreuses sociétés. Bien que très impliqué dans la vie économique du pays, il prend le temps de rédiger 3 présentations de classiques illustrés concernant Racine, Taine et Malraux. 1958 marque le retour du général de Gaulle au pouvoir et celui de Georges Pompidou aux affaires politiques. Dans un contexte troublé, dominé par la question algérienne, le dernier président du Conseil de la 4e République fait appel à lui pour diriger son cabinet de juin 1958 à janvier 1959. Son rôle auprès du général fut décisif. Il accompagnera les travaux d'élaboration de la Constitution et encouragera les réformes économiques et monétaires. Après l'élection du général à la présidence, Georges Pompidou retourne pendant quelques temps vers le monde de l'entreprise en réintégrant la banque Rothschild. Membre du Conseil constitutionnel en 1959, il prend le temps de rédiger une anthologie de la poésie française. Toujours en relation avec le général, il accepte en février 1961 une mission secrète destinée à faciliter les négociations avec le FLN algérien. Après l'approbation des accords d'Évian par référendum en avril 62, le général de Gaulle le nomme Premier ministre à la place de Michel Debré. Expérimenté, mais peu connu du grand public, il prendra la tête de 5 gouvernements jusqu'en 1968. Sa gouvernance sera marquée par des événements importants, le choix du suffrage universel direct pour l'élection du président de la République, le recours au référendum pour faire approuver cette modification constitutionnelle, un réel essor économique, des réformes de structure importantes, et mai 68, qui fait vaciller la République. Depuis Matignon, Georges Pompidou gère le quotidien, mise sur des mesures d'apaisement et engage les négociations de Grenelle. Il préconise la dissolution de l'Assemblée nationale afin de trouver une sortie politique à la crise. Elle sera annoncée le 30 mai par le général de Gaulle à son retour de Baden-Baden. À l'issue de la nette victoire des gaullistes aux élections de juin, un nouveau gouvernement est mis en place et Maurice Couve de Murville est nommé Premier ministre. Redevenu simple député du Cantal, Pompidou organise ses bureaux au boulevard de la Tour Maubourg. Le 17 janvier 1969, à Rome, il déclare « Il sera candidat à une élection dans la présidence de la République lorsqu'il y en aura une ». 3 mois plus tard, c'est l'échec du référendum sur les réformes du Sénat et des régions, provoquant le départ du général de Gaulle et l'organisation de nouvelles élections présidentielles. Pompidou est élu avec 58% des suffrages exprimés face à Alain Poher. Artisan essentiel de l'aménagement du territoire, du développement des grands équipements de l'État et de la modernisation de l'industrie, il veille au retour des grands équilibres financiers et monétaires. Son mandat est écourté par la maladie et il meurt dans son appartement parisien le 2 avril 1974. Avec Claude, son épouse, Georges Pompidou aimait collectionner les œuvres des artistes contemporains qu'il exposa dans le palais de l'Élysée. Le couple possédait une demeure à Orvilliers dans les Yvelines, la Maison Blanche, dans laquelle ils se rendaient très souvent. Ils sont tous deux inhumés dans des sépultures discrètes au cimetière du village. Au revoir et à bientôt pour une prochaine chronique.